Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Bonjour Leila Ben-Sharif, on est ravis de vous accueillir dans le podcast de Pourquoi tu cries d'Approche Culture et Territoire. Avec vous, on va parler disparité sociale, engagement politique, militantisme, mais d'abord, dans un premier temps, j'aurais souhaité que vous vous présentiez aux personnes, aux auditeurs, aux auditrices qui ne vous connaissent pas.
Bonjour Colline, d'abord, grand merci pour cette proposition et j'ai découvert il y a quelque temps ACT et le formidable travail que vous accomplissez localement sur Marseille et son agglo. Alors moi je m'appelle Leila Ben-Sharif, je suis une militante associative, je suis issue d'une géographie sociale et urbaine qui m'a permis de me plonger dans une géohistoire de l'immigration maghrébine dans le département de la Loire de 1914 à 2000. Ce travail a été important puisqu'il m'a permis de mettre un pied dans l'action mémorielle, on y reviendra. Pour finir par me présenter, donc militante associative, bénévole associative, présidente de l'association Trace Migration en Rhône-Alpes, et puis bénévole d'une association pour laquelle je donne beaucoup de temps, Habitat Humanisme, association dans laquelle j'accompagne la scolarité de jeunes immigrés, notamment un public de réfugiés, d'enfants réfugiés syriens. J'ai hébergé pendant plusieurs années des femmes notamment sans papier avec, qui se trouvaient à la rue avec des enfants. Peut-être pour me présenter plus précisément, j'ai envie de démarrer par une histoire qui m'est très personnelle et propre, parler de mon adolescence où j'étais jeune lycéenne, voire même jeune étudiante, où je me rappelle très bien des expériences de racisme, des expériences de délit de faciès, des expériences d'assignation identitaire qui m'ont fortement marquée. J'étais lycéenne ou j'étais étudiante et je peux vous dire que ces expériences subies et vécues, elles m'ont totalement encouragée et engagée à m'inscrire dans une démarche militante. Je pense qu'elles ont forgé, elles ont façonné mon militantisme aujourd'hui et cela a été salvateur pour moi. Alors cet engagement associatif, il a démarré très tôt lorsque j'étais lycéenne et lorsque je suis entrée dans l'association Le Grain Magique, qui est une association stéphanoise. J'habite à Saint-Étienne, je suis née à Saint-Étienne. Et l'association Le Grain Magique fait partie de ces premières associations qui ont été créées lorsque François Mitterrand, alors président de la République en 1981, il avait décidé aux étrangers le droit de créer leurs propres associations. Il y a eu une pléiade en France d'associations que on a qualifiées, enfin que la presse a qualifiées en tout cas, le mouvement beurre. En 82, donc cette association est créée, je suis une jeune lycéenne, je crois que j'étais en seconde, et je découvre avec mon frère et ma sœur aînée cette association, Le Grain Magique. Elle a été une vraie école d'engagement pour moi, et bien plus que ma formation universitaire, qui certes a pu compléter ma réflexion, m'a sans doute forgé à théoriser, je dirais presque, mon militantisme. Mais la base pour moi, c'est l'école de la citoyenneté, cette formidable école de citoyenneté qu'a été Le Grain Magique, qui était donc une association d'éducation populaire. À l'époque, au tout début de sa création, elle avait... elle rassemblait jusqu'à 400-500 adhérents sur tout le département de la Loire et principalement sur l'agglomération stéphanoise. C'était une assoce donc, d'éducation populaire et citoyenne, une vraie association d'éducation populaire et citoyenne et qui proposait moult activités, des activités dites socioculturelles, des espaces de formation aussi hein, pour accompagner le travail d'animation, un vrai espace d'engagement politique où toute jeune adolescente, j'ai pu finalement acquérir une conscience politique. On y faisait même nos devoirs hein, après nos cours. Et puis, il y avait des temps festifs extraordinaires. Je me rappelle avoir, par exemple, mon premier concert a été celui de le groupe Carte de Séjour qui se présentait à Saint-Étienne. Et Le Grain Magique aussi avait contribué à l'organisation de ces temps festifs. Cet engagement, cette implication dans le Grain Magique, l'association Le Grain Magique. Et puis, Le Grain Magique qui a très vite organisé en 1983 la marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors, organiser la marche, ça voulait dire, par exemple, faire venir, un peu, organiser le déplacement via plusieurs, de nombreux cars, hein, de mémoire, il me semblait qu'il y en avait au moins 10. Donc, 10 cars qui partent du département de la Loire le 2 décembre 1983 pour arriver à Paris le 3 décembre 1983. Donc, c'est aussi à travers cette association, Le Grain Magique, que j'ai pu participer à cette manifestation extraordinaire, inédite.
Avec cette association, vous étiez dans une vie locale et militante. La marche, elle prend un visage plus national, elle vous ancre dans un mouvement en fait qui va dépasser le local et ce que vous pouvez vivre vous à ce moment-là à Saint-Étienne. Qu'est-ce que ça vous a fait de vivre cette marche?
Je suis née en 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'avais 16 ans. Je vais le dire avec mes mots, ce moment-là a été extraordinaire pour moi parce que je pense que c'est la première fois que j'ai pu me dire, ça y est, je suis française. Je suis française et je vais devenir française. C'est-à-dire que oui, il y a eu cet enthousiasme extraordinaire où on pouvait dénoncer les crimes racistes et être entendu enfin. Je pense que ce temps fort, il a permis une vraie conscience politique et surtout une conscience politique qui nécessitait de s'engager dans des luttes citoyennes. Et ces associations, hein, qu'on a qualifiées d'associations dites du mouvement beurre, eh bien, elles ont contribué à cet engagement politique via un travail sur notre propre conscientisation. On marche aussi pour un mieux vivre ensemble, un avenir commun, et en militant pour plus d'accès à l'égalité des droits. Peut-être qu'à 16 ans, je ne savais pas utiliser ces termes. Sans doute que je ne savais pas utiliser encore ces termes. Je ne parlais pas d'éducation populaire et citoyenne d'engagement, mais j'avais vraiment la conscience que tout était possible pour qu'on se sorte de ces terribles injustices que nous subissions et que nos parents aussi subissaient et qu'une partie importante de la société française subissait. Donc oui, ça a été un moment très déclencheur. Le Grain Magique décide de créer une liste et la présenter, de créer une liste pour les élections municipales de 1989. Année du bicentenaire de la Révolution française, les militants du Grain s'étaient dit, bah, allez, on va fêter nous aussi à notre façon le bicentenaire de la Révolution française, et en présentant une liste qui s'appelait « Pour une citoyenneté active », on avait créé pour cette campagne municipale, puisque électorale, pour les municipales de 89, plusieurs collectifs sur toute l'agglomération stéphanoise où on invitait les jeunes, par exemple, à s'inscrire sur les listes électorales. Mais on a surtout travaillé, on a écrit des cahiers de doléances qu'on avait présentés à l'ensemble des candidats, sauf les fachos, le Front National qui était déjà bien présent. On avait présenté nos cahiers de doléances et on expliquait, voilà, ce que nous souhaitions, quel avenir ensemble promouvoir pour aller vers plus de justice sociale, plus d'égalité et bien évidemment continuer à combattre résolument les discriminations et toutes les formes de racisme. 1989, alors c'est la petite histoire localement, on fait partie de cette liste fait partie des toutes premières listes des héritiers de l'immigration maghrébine, hein, qui se sont constitués un peu partout en France. Nous, on l'a décidé en 15 jours après que le maire François Dubanchet, un maire de droite, qui était maire depuis 1983 et qui recandidatait, avait dans la presse, juste pour annoncer qu'il repartait pour un tour, il avait expliqué qu'il fallait en finir avec la délinquance bronzée. Donc nous, on avait décidé de lui répondre avec cette liste qui, je dois dire, a fait flipper tout le monde, autant à gauche qu'à droite. Pour la petite histoire, à gauche, on nous disait que ce soit le Parti communiste ou la liste du Parti socialiste, on nous disait, oui, mais on se connaît bien, pourquoi vous montez cette liste? Votre vote nous est acquis. À droite, bien évidemment, on flippait, puisque dans les têtes de tout le monde, je pense que de tous les candidats à droite comme à gauche, chacun imaginait, essayait de comprendre combien il y avait de personnes, de jeunes Français issus de l'immigration maghrébine qui pouvaient voter pour notre liste. Et parfois, les renseignements généraux donnaient des chiffres incroyables, des chiffres du style 10, entre 10 et 20%.
Donc, c'est des questions qui se posent toujours, moi j'ai l'impression.
Totalement, totalement. C'est-à-dire que à la fois, on félicite notre engagement politique, mais on le craint. On le craint, on en a peur, parce que forcément, implicitement ou explicitement, ce qui était pensé, c'était voilà, une liste communautariste, etc. Sauf qu'il y a l'époque, je tiens à le dire, en 1989, les 61 personnes, elles sont de toute nationalité d'origine. Il y a presque autant de femmes que d'hommes. Il y a des personnes, des hommes, des femmes de tous horizons socio-professionnels, du jeune étudiant passant par le chômeur jusqu'au chef d'entreprise, en rencontrant l'artiste. Bon, on avait une magnifique liste et je pense, en tout cas, sur le département de la Loire et même sur la région Rhône-Alpes, il n'y avait aucune autre liste qui pouvait...
Réunir comme ça les...
Notre liste était éminemment symbolique. Au soir du premier tour des municipales en 89, on fait moins de 2%, mais pour nous, peu importe le chiffre, l'acte symbolique était posé. On avait pu rencontrer les élus, alors on refusait systématiquement de rencontrer des candidats, des politiques d'extrême droite, mais c'était très intéressant de les voir nous courir après, de les voir imaginer que nous allions faire, que nous allions gagner la mairie, parce qu'en fait, dans leur tête, ils comptabilisaient le nombre d'Arabes à Saint-Étienne, ils disaient « c'est bon, ils votent ». Sauf qu'on savait très bien que dans les quartiers populaires, où se trouvaient majoritairement les familles immigrées, eh bien, beaucoup de jeunes eh bien, français, pourtant, n'étaient pas inscrits sur la liste électorale. Je parle de 89, mais bien évidemment, il y a des questions qui se posent encore aujourd'hui. Notre liste de 89, elle a marqué aussi un tournant au grain, puisqu'elle l'a complètement engagée dans une dimension politique. En tout cas, on l'avait déjà, cette dimension politique, elle portait déjà les valeurs du grain, l'engagement citoyen, l'engagement politique. Mais en 89, il est encore plus acté et visible pour l'opinion publique locale et surtout pour les partis politiques. Et puis, pour en finir avec cette histoire d'engagement politique, je me réembarque en politique en 1992 lors des élections cantonales et régionales. Et je suis, à cette époque-là, en 92, ce qu'on appelait les candidats d'ouverture au sein du Parti des Verts. Les écologistes nous avaient... on a beaucoup discuté avec eux localement et donc ils nous avaient proposé eh bien, qu'on ait des représentants sur des cantons. J'ai pas été élue en 1992, mais on était présents. Donc là, j'étais candidate d'ouverture, hein, c'est-à-dire non encartée sur cette cantonale. Je crois que j'avais fait à peu près près de 10%. Et puis, donc 89-92, et pour finir, ma dernière expérience d'engagement politique entre 2010 et 2015, j'ai été élue vice-présidente du Conseil régional de Rhône-Alpes en charge de la vie associative, l'éducation populaire. Voilà rapidement mon parcours politique, mais ce que je voudrais dire, c'est que je dois mon engagement politique d'abord à mon engagement dans des associations d'éducation populaire et citoyenne. Et j'aime toujours le dire, l'associatif, l'association, c'est ce qu'on a, c'est quelque chose qu'on a de très précieux en France et que plus que jamais, le monde associatif, il est signe pour moi d'école de la citoyenneté, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout, c'est un lieu qui est propice à l'initiative, aux initiatives citoyennes, solidaires. Et dans ma petite expérience personnelle, eh bien, je peux dire que c'est vrai, ça a été le cas pour moi. Je poursuis parallèlement à tout cela, et c'est ce qui est le plus important. Je préside une association qui s'appelle Trace Migration en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il s'agissait de produire des actions, souvent grand public, hein, des rencontres publiques, des actions culturelles, artistiques, etc., des productions diverses et variées qui permettaient de valoriser, de rendre visible, de faire connaître et de faire surtout reconnaître, de reconnaître la place de l'histoire et du présent des immigrations, des migrations dans notre territoire régional. Et en fait, mon engagement, qui reste le mien aujourd'hui, la politique s'est passée, je dirais, au sens de s'encarter dans des mouvements, tout cela c'est terminé pour moi, mais ce qui reste toujours d'actualité, ce qui m'est le plus important et le plus cher, c'est de continuer à travailler sur les enjeux, sur l'histoire et les mémoires des immigrations, pour le dire vite, et avec une focale sur l'histoire de l'immigration coloniale. Cet engagement, pour moi, il démarre à la fin des années 90, au moment aussi où je suis inscrite dans une thèse qui me permet également d'aborder la question, par exemple, du fait colonial et son impact dans l'histoire de l'immigration locale, dans un moment clé, puisque fin 90, il y a une vague mémorielle en France où beaucoup de personnes issues de l'immigration, d'associations issues de l'immigration, aux côtés de chercheurs et d'autres acteurs sociaux aussi, vont développer un certain nombre d'actions, de productions, pour encore une fois repenser la place de l'histoire des immigrations en France dans le dit grand récit national. Donc, l'engagement politique, il perdure à ce moment-là, parce qu'on n'est pas. L'engagement politique, ça n'est pas simplement, ça ne se réduit pas à prendre une carte dans un parti et se présenter à une élection. L'engagement politique et citoyen du travail de mémoire et d'histoire, il est fondamental à rappeler, puisque derrière, hein, cette démarche, il y a des enjeux clés, puisqu'il s'agit de construire un héritage qui inscrit les héritiers de l'immigration dans une filiation historique, je dirais, mais aussi dans une expérience biographique, dans une filiation historique, avec notamment l'engagement de nos parents, par exemple. Mon père était un militant cégétiste, un militant FLN pendant la guerre d'Algérie. Il était collecteur de fonds. Et d'une certaine manière, je me suis inscrite dans la filiation de l'engagement de mes propres parents. Ma mère aussi y a apporté sa contribution. Derrière ce travail, cette démarche, hein, ce chantier, je dirais plutôt, d'histoire et de mémoire rattachée au monde de l'immigration, et singulièrement celui issu de l'immigration coloniale, il y avait aussi l'objectif de promouvoir cet héritage au cœur de la société française et dans l'espace public. Et puis, chose très importante, il s'agit aussi, à travers cet enjeu histoire, mémoire des immigrations, il s'agit à travers cet enjeu d'interroger, de réinterpréter finalement les cadres sociétaux et idéologiques, recomposer ainsi le grand récit national qui a oublié des pans entiers de l'histoire de la société française. Et ces enjeux-là, ils se posent toujours avec acuité aujourd'hui, même si il est vrai qu'il y a plus de production, que ces questions, elles sont plus débattues qu'il y a 20 ans. Mais le travail demeure.
C'est effectivement des valeurs qui portent beaucoup aussi le travail d'approche culture et territoire. Et ça me fait penser, en fait, dans le lien de ce que vous avez dit aussi précédemment sur l'histoire de votre engagement militant, de votre engagement politique et de cette marche de 1983. Qu'est-ce qui demeure justement? Quelles sont selon vous, en fait, les priorités quand vous
Oui.
regardez dans le rétroviseur de ce que vous avez vécu et vous vous dites là, vraiment, il faut qu'on continue le travail particulièrement?
Il y a des enjeux, des défis importants à relever. D'abord, il faut qu'on en finisse avec ces fausses politiques de lutte contre les discriminations et les racismes qui fracturent encore notre société, et on va encore passer un sale moment avec ce énième projet de loi sur l'immigration et on va entendre encore une fois des discours funestes. Je pense que le mérite d'une démocratie, c'est de ne jamais renoncer à la devise, à ces principes républicains qui sont la fameuse devise liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'un des chantiers majeurs, c'est de repenser radicalement la lutte contre les inégalités. On attend des politiques de mettre en place de véritables politiques de justice sociale. On parle de politique de la ville. Nombre de travaux ont montré qu'il y a eu quand même des trucs qui ont été faits. Ce serait mentir de ne pas le reconnaître. Mais la réalité, c'est que les chiffres, les taux de pauvreté, de précarité, les chiffres du chômage sont encore très élevés et qu'on n'arrive pas à injecter de la justice sociale là où on doit l'attendre tout particulièrement. Et il est très fort regrettable aujourd'hui de se dire que, allez, les quartiers populaires, ça représente à peu près 9% de la population française, à peu près 1% du budget de l'État. Or, aussi, on met en place des politiques dites exceptionnelles, des programmes exceptionnels depuis des décennies dans les quartiers populaires, là où il y a de la précarité, il y a des problèmes d'accès aux droits. On doit appliquer des politiques publiques qui soient plutôt transversales. Et on passe notre temps à faire des programmes exceptionnels. Et encore une fois, on rend exceptionnels et spécifiques et hors du droit commun les quartiers populaires. Et là, ça n'est plus possible. Deuxième enjeu important pour moi, ou défi à relever, c'est la question du travail de mémoire. Alors, comme ACT, et dans le cadre d'un interréseau qui s'appelle l'interréseau mémoire-histoire, histoire et mémoire, dans lequel le réseau Trace, comme le réseau ACT, vont à cœur tous de continuer à travailler sur la question de l'histoire et des mémoires coloniales. Et là, en France, on n'est toujours pas clair sur notre rapport à l'histoire coloniale. La colonisation, elle est indissociablement liée à l'histoire de l'immigration maghrébine en France, pour le dire très simplement. Et aujourd'hui encore, il est, même si on arrive à débattre, à aborder cette question, à produire, nous les militants associatifs, à produire une réflexion, à la rendre publique dans l'espace public, à la rendre visible dans l'espace public, force est de constater qu'on est souvent, on est délégitimé, disqualifié, on est supposé être des repentants, des revanchards, alors que tout ce qui nous anime, c'est d'aller vers la vérité historique, c'est de penser ce travail de mémoire et d'histoire pour un meilleur avenir, et puis commun, je dirais. Et puis, il est ce travail, il nous est précieux parce qu'on ne peut pas faire de l'amnésie une politique de la juste mémoire et de ne pas sombrer, comme on nous tente de nous l'imposer aujourd'hui, dans une politique de l'oubli. Et faire, en travaillant sur cette histoire liée au fait colonial, eh bien, il y a un enjeu pour moi qui est clair et j'espère que de mon vivant, en France, je pourrai assister une fois à un procès, à ce grand jour qui serait un procès de la colonisation, où la reconnaissance de la colonisation et du fait colonial comme de la colonialité comme crime contre l'humanité. Pour moi, c'est un défi. La seule réparation qui vaille, c'est celle de la vérité historique et de la justice via la reconnaissance de la colonisation et du fait colonial comme crime contre l'humanité. Pour moi, c'est un combat essentiel et heureusement en France, il y a de très nombreuses personnes, très nombreuses associations, de très nombreux acteurs sociaux qui militent pour cela. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, je m'inscris encore dans cette urgence à la reconnaissance de colonisation, crime contre l'humanité. Autre défi important à relever, au moment où l'on pense les 40 ans de la marche, puisqu'on va commémorer un peu partout en France les 40 ans de la marche, ben j'espère qu'ici et là, on pourra à nouveau aborder toutes ces questions qui croisent la question de la difficulté d'accès aux droits, questions qui vont pouvoir aussi nous permettre de débattre de la situation de l'immigration aujourd'hui, mais surtout de l'actualité des migrations en France. On ne peut pas penser les 40 ans de la marche sans penser que depuis la fin des années 90, il y a eu à peu près 50 000 morts en Méditerranée. On écrit un peu partout, on lit un peu partout que la Méditerranée est devenue un cimetière. Je pense que ces questions-là, elles doivent être convoquées, elles sont aussi importantes que celles qui concernent les replis identitaires qui sont réels en France. Hein, quand on a décidé de faire du musulman, de l'arabe, du migrant issu des pays des Sud, des ennemis de l'intérieur, il faut aussi convoquer cette question de la stigmatisation et qui crée un véritable sentiment d'injustice chez les individus de la communauté musulmane et chez d'autres groupes d'habitants. Et je pense tout particulièrement aux jeunes migrants ou aux moins jeunes migrants qui viennent des pays du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique et qui vivent un ostracisme terrible. Je voudrais également dire que cette commémoration de la marche, elle va forcément nous obliger à interroger des politiques violentes, des politiques ultralibérale, et la réforme des retraites aujourd'hui, elle en est la démonstration, hein. Elle démontre qu'il y a encore une fois une crise politique et démocratique majeure en France, hein. 2 millions d'habitants qui manifestent et qui ne sont pas entendus, ça reste un problème majeur. Et puis réinterroger véritablement la fabrique de ces politiques ultralibérales qui créent encore plus d'inégalités. J'entendais il y a peu un projet lié à la réforme des retraites qui vise à assigner les Chibanis, hein, les vieux migrants retraités, hein, les assigner à résidence en France pour percevoir leur retraite. Donc, encore une fois, on va enlever encore un peu plus de liberté, de déplacement, de mobilité à des hommes, à des femmes, au prétexte qu'ils contribueraient à la fraude sociale en France, tout comme il est important de revenir sur quelque chose qui était une promesse et d'autres promesses encore. En 81, le droit de vote des étrangers aux élections locales avait été inscrit par Mitterrand. Et depuis 40 ans, on n'y est toujours pas. Et je pense que le mérite d'une démocratie, si la France est réellement le pays des droits de l'homme, de l'innovation citoyenne, etc., on doit aller vers la reconnaissance du droit de vote des étrangers aux élections locales. Ces défis sont importants pour moi parce que l'enjeu, c'est de penser ensemble un avenir commun et penser aussi plus d'égalité pour des femmes issues de l'immigration, ou je devrais dire des femmes tout court, hein, celles qui sont, connaissent plus la précarité sociale, économique. Je veux dire, notre réflexion, elles sont liées à ces 40 ans qui seront un prétexte, hein, pour aborder, je l'espère, toutes ces questions-là d'actualité. On est complètement intégré en France. Alors, intégré pas au sens d'assimilation, mais au sens où nous avons une conscience politique aiguë de ce qui se passe en France, une conscience politique aiguë des enjeux, hein, qui travaillent et qui tiraillent la société, et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, hein, et plus que jamais, il ne s'agit pas de laisser encore une fois l'extrême droite, autrement dit les fachos, à diriger l'agenda politique de nos décideurs et de nos gouvernants. Le plus gros échec, quand on est amené à discuter de tout cela, il me semble que les élections législatives l'année dernière, qui ont permis l'élection de 89 élus d'extrême droite, fachos, je pense que c'est là, pour moi, le signe d'un total échec de nos gouvernants qui n'ont pas su s'atteler à mettre en place des politiques publiques réellement égalitaires, réellement fraternelles, hein, c'est-à-dire respectueuse de la devise républicaine, et aujourd'hui on en est là. Et c'est terrifiant de savoir qu'en France, à l'Assemblée nationale, on a un groupe de fachos constitué par 89 personnes. Pour moi, c'est une déroute. On dit qu'il y a une crise démocratique, politique majeure en France, que les citoyens s'éloignent de la chose publique, etc. etc. Mais la réalité, c'est qu'on l'a encourager tout cela par des politiques publiques qui n'étaient pas des politiques publiques de justice sociale. Et véritablement, pour terminer, il y a une citation qui me fait toujours du bien, que j'aime dire encore et encore. Il est difficile quand on est voilà, chercheur, militant associatif, etc., engagé dans une diversité de production. Je me suis engagée dans la production d'expositions, accompagner la réalisation de documentaires, hein, toujours pour faire valoir, reconnaître, faire connaître la diversité de l'histoire des immigrations et in fine pour interroger notre rapport, le rapport de la société française à l'altérité et le rapport d'un État à l'altérité. C'est ça qui guide finalement mon engagement et mes modestes actions. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas faire de l'amnésie une politique de la juste mémoire. Et je dis également, pour l'avoir vécu il y a encore quelques mois, hein, j'ai pu entendre des personnes me dire « Oui, mais Madame Bencharif, vous faites un travail sur la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie. Eh bien, sachez que nous sommes dans une mémoire. Nous ne sommes pas dans une mémoire de gauche. » Et nous sommes contre la repentance, alors que j'intervenais dans un conseil scientifique. Ça pose problème quand même de dire cela, et c'est inopérant, c'est impertinent, c'est humiliant et insultant de caricaturer des défis de la sorte. Parce que ce qui est en jeu, c'est pas la repentance, c'est pas la revanche. Ce qui est important, c'est ce que nous rappelait très bien Aimé Césaire, en 1955, quand il écrit « Discours sur le colonialisme », il disait « On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. » Et en citant Aimé Césaire, j'ai juste envie de dire qu'un autre défi que nous avons à relever, c'est d'abroger la loi du 23 février 2005 qui a reconnu les bienfaits de la colonisation. Et c'est indécent de mettre sur une même balance des routes, des voies de chemin de fer, des canaux édifiés avec des crimes de barbarie, des spoliations, de l'humiliation, etc., comme le disait bien mieux que moi Aimé Césaire. Et il est très malheureux, et je l'ai vécu comme une véritable rupture républicaine. Le 23 février 2005, quand l'Assemblée nationale s'est autorisée à réécrire l'histoire, le politique n'a pas à écrire l'histoire. Et il n'empêche que la France est le seul colonisateur au monde à avoir osé pondre une loi qui visait à reconnaître les bienfaits de la colonisation. Quand bien même Jacques Chirac a abrogé l'article 4, un alinéa de l'article 4 de cette même loi qui demandait que les enseignants enseignent les bienfaits de la colonisation. Et rappelez-vous, il y a eu un formidable mouvement de désobéissance civile qui a obligé le président à abroger cet article 4. Il n'empêche que cette loi, elle demeure. Et quand on sait comment elle a été fabriquée, effectivement, on se dit que nos dirigeants n'ont toujours pas compris que pour penser ensemble un avenir commun, eh ben, il faut accepter de se prendre en pleine figure les fantômes de l'histoire et construire un avenir commun ensemble où la question du rapport à l'altérité n'est pas le problème majeur de la France. La France est une société multiethnique, cosmopolite depuis des siècles. Il serait temps que tous et toutes le reconnaissent.
À travers cette dernière citation, à travers tout l'entretien, on comprend pourquoi vous criez. Moi, j'aurais envie, en dernière question, de vous demander peut-être comment vous gardez la force de crier.
Je dis souvent à mes enfants qui m'interrogent et qui me disent « Maman, t'es pas fatiguée avec ton militantisme ?» D'abord, on va le relativiser. Hein. Je ne vis pas dans un pays où, en guerre. J'ai la chance de vivre dans un pays où je peux encore m'exprimer, même si le travail, hein, pour revenir sur le chantier de l'histoire et de la mémoire, ce travail, nous le savons tous et toutes, il est semé d'embûches. Je pense que ce travail, à titre très personnel et à titre égoïste, il est salvateur pour moi. Je crie peut-être pour me guérir un peu plus, et puis parce que je suis pas loin d'être retraitée, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir notre capacité à transmettre nos engagements, nos luttes, à d'autres générations plus jeunes, qui elles vont réinventent déjà des nouvelles formes d'engagement, et qui vont se coller des chantiers un peu anciens, et puis elles vont se coller à d'autres chantiers, ces jeunes générations. Pourquoi je crie? Parce que j'espère modestement que je fais acte de transmission. Sinon, je crie pour rien et dans le vide. Et ça fait juste plaisir à l'ego de gueuler un petit peu de temps en temps. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est les conditions de transmission de nos luttes, de nos engagements. Et elles sont d'une actualité réelle et très forte.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer cela et d'être revenu aussi sur tous ces événements qui finalement ont jalonné votre parcours, mais qui aussi ont jalonné l'histoire des dernières années, en fait, sur ces sujets-là. C'est aussi ça qu'on souhaite retracer à travers ce podcast. Donc, merci d'avoir pris le temps pour ça. Et effectivement, la transmission, je pense, sur ces sujets-là est un enjeu important, et c'est aussi l'un des objectifs de porter la parole, en fait, à travers ce podcast. Donc, je vous remercie une nouvelle fois au nom d'Approche Culture et Territoire.
Avec grand plaisir.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire. Réalisation, Colline Charbonnier.